Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro. Cette balado-diffusion est une présentation de Québec Oiseau. Je vous parle alors que je m'apprête à partir pour Tadoussac, où se tiendra le Festival des oiseaux migrateurs organisé par l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac en fin de semaine. On a déjà eu la chance à la balado-diffusion de parler de l'organisme et de ses activités, et je crois qu'on a peut-être même glissé un mot à quelques reprises sur le Festival de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac et également sur le Festival de l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski qui se déroule au printemps. Les différents festivals d'ornithologie au Québec sont vraiment là, des rassemblements d'ornithologues amateurs incontournables. Et on est vraiment très, très content que ça recommence enfin en personne, puisque le festival de l'OOT avait été essentiellement en ligne dans les dernières années. Personnellement, j'ai jamais encore eu l'occasion de me rendre dans un de ces festivals, profiter des activités, donc je suis particulièrement content de pouvoir le faire en fin de semaine. Au menu du festival, comme d'habitude, il va y avoir des conférences, des excursions guidées, des stations de bagages, des suivis ornithologiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts et j'ai hâte de vous raconter comment mon festival à moi s'est déroulé. Évidemment, moi je voyage avec deux très jeunes enfants et donc ma participation aux excursions guidées va être un petit peu limitée, mais je vais quand même participer à la croisière aux oiseaux pélagiques et c'est aussi la première croisière aux oiseaux pélagiques que je fais de ma vie, donc j'ai hâte de voir si certaines espèces vont se pointer le bout du bec et qui pourraient constituer pour moi des prime coches ou, comme on dit en bon anglais, des lifers. J'espère aussi avoir la chance de rencontrer certains d'entre vous, des auditeurs, pendant le festival. L'été est maintenant derrière nous, un été qui, je l'espère pour vous, a été fructueux en termes d'oiseaux observés, que ce soit pour les plus contemplatifs assis sur votre balcon devant un nid de moucherolles phébies ou pour les plus entreprenants en expédition à l'île aux perroquets. Peut-être que vous avez d'ailleurs fait une combinaison de toutes ces activités plus contemplatives ou plus entreprenantes. L'automne est déjà bien entamé en ornithologie. La première vague de migrateurs, entre autres les parulines boréales, les limicoles, commence tranquillement à s'estomper et va laisser sa place aux migrateurs du mois d'octobre, la sauvagine, les bruants, autres oiseaux granivores. Aujourd'hui, pour mettre derrière nous cet été qui a été un peu dramatique pour certaines populations de nos oiseaux, je vous propose une entrevue avec Stéphane Lair de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal qui va nous dresser un bilan de ce qu'on sait de l'épidémie de grippe aviaire qui a frappé cet été. Alors, je rejoins au téléphone à Saint-Hyacinthe Stéphane Lair, qui est professeur titulaire en santé de la faune à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Déjà, M. Lair, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui.
Bonjour.
On est là pour parler de grippe aviaire. Alors, je pense que tout le monde qui suit un petit peu les nouvelles, et particulièrement, évidemment, ceux qui s'intéressent aux oiseaux, sont au courant qu'il y a une épidémie de grippe aviaire qui a frappé les oiseaux du Québec. Puis donc, M. Lair, vous travailler sur ce dossier-là depuis un moment. J'aimerais peut-être qu'on commence par un peu de définition, parce que le terme grippe, c'est quelque chose qui, dans le langage un peu populaire, disons, désigne toutes sortes d'affections qui ne sont pas nécessairement liées. Alors, quand on parle d'une grippe, de quoi on parle exactement?
En fait, le terme grippe, c'est associé avec des infections par une famille de virus, un groupe de virus qu'on appelle les virus influenza. Il y a vraiment là, des centaines, pour ne pas dire des milliers de types de virus influenza, qui peuvent affecter différentes espèces, dont l'homme. Donc, quand on a une grippe, c'est vraiment spécifique à une infection avec un certain type de virus, donc le virus influenza.
Puis, qu'est-ce qui fait que le virus de l'influenza est en capacité, par exemple, d'affecter un oiseau comme un humain ou un mammifère, par exemple, parce que ça ne semble pas si relié que ça d'un point de vue évolutif?
Ben, c'est ça qu'il y a, encore une fois, beaucoup de différents types de virus influenza. Il y a des virus qu'on appelle les virus influenza aviaires qui sont plus spécifiques aux oiseaux. Ceci étant dit, il y a certains virus d'influenza aviaire qui vont être en mesure d'infecter les mammifères aussi. C'est un virus qui va changer beaucoup. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des recombinaisons, c'est-à-dire des virus qui vont se mettre ensemble et qui vont créer des nouveaux virus. Il y a toujours une évolution des virus qui se fait à travers les années. Et en fonction un peu de cette évolution-là, leur niveau de pathogénicité pour les différents autres, que ce soit des oiseaux ou des mammifères, peuvent varier.
OK. Puis lorsque les oiseaux attrapent la grippe aviaire ou l'influenza, quels sont les symptômes qu'ils vont ressentir? Ça ressemble à quoi pour eux?
Une fois, ça dépend un peu quel type de virus. Il y a plusieurs types. Les types, j'appelle avec des H et des N. Mm-hmm. Comme présentement, ce qu'on a, c'est le H5N1 au Québec. Historiquement, quand on parle d'influenza, c'est surtout des signes respiratoires. C'est-à-dire que c'est des oiseaux qui vont avoir respiré la bouche ouverte, qui vont avoir de la difficulté à respirer. Ceci étant dit, avec le H5N1 présentement, ce qu'on voit surtout, c'est plutôt des signes neurologiques, donc des signes nerveux. Des oiseaux qui vont avoir des tremblements, qui vont avoir de la difficulté à se déplacer, qui peuvent avoir des genres de torticolis, si on veut, qui ne sont pas encore en mesure de s'alimenter ou de voler.
Puis, on sait que là, éventuellement, on va probablement parler un peu de comment ça va en ce moment au Québec, mais il y a quand même de la mortalité. Donc, qu'est-ce qui finit par provoquer la mort chez les oiseaux lorsqu'ils sont affectés?
D'un point de vue pathologique, c'est vraiment spectaculaire. Parce que les oiseaux vont mourir très, très rapidement.
Ah oui?
Donc, c'est tout le système qui ne fonctionne plus, on dirait. Et puis, ce qu'on voit, le virus va causer aussi des nécroses importantes, c'est-à-dire une dégénérescence des tissus dans certains organes comme le foie, le pancréas. Et c'est la libération de toutes ces toxines causées par les cellules qui sont mortes, finalement, qui vont finir par tuer l'oiseau.
Ah oui, OK. Mon Dieu, je ne savais pas que c'était à ce point fort comme virus. Ben, donc, on a parlé évidemment de la grippe. En tout cas, chez l'humain, je sais que c'est un virus qui est transmis de façon respiratoire. J'ai une question qui est peut-être un peu naïve, parce que, bon, on a vécu nous-mêmes, on est en plein milieu encore d'une pandémie d'un virus qui est transmis de façon respiratoire. Mais comment c'est transmis par les oiseaux entre eux? Parce que a priori, nous, ce qu'on a su, c'est qu'on a appris ça avec la COVID. Lorsqu'on est dehors, les risques de transmission sont relativement faibles parce que, bon, les particules virales sont diluées pas mal plus rapidement, mais les oiseaux, en tout cas, sont toujours dehors. Donc, comment ils se le transmettent d'un oiseau à l'autre?
Le virus va être présent dans différentes sécrétions corporelles qu'on appelle. Donc, il va en avoir au niveau des poumons. Quand l'oiseau va respirer ou quand l'oiseau va avoir des sécrétions au niveau nasal, et ces sécrétions-là vont contenir du virus. Il va y avoir aussi du virus au niveau des fesses de l'animal, des fientes. Et naturellement, l'oiseau infecté va contaminer son environnement. Et c'est les oiseaux qui vont être en contact avec soit les fesses, soit avec les sécrétions corporelles, vont pouvoir s'infecter avec le virus. Historiquement, comme je disais, l'influenza aviaire était surtout une maladie respiratoire. Donc, on pense que c'était surtout aérosol. Avec cette nouvelle souche-là, présentement, on pense qu'il y a beaucoup aussi d'oiseaux qui s'infectent par le système digestif.
Ah, OK.
Parce qu'il y a une espèce de tropisme, si on veut, pour les organes autour du système digestif. Donc, ça pourrait être probablement via l'ingestion de particules virales qui contaminent l'environnement via les fesses ou les sécrétions corporelles.
Et puis, est-ce qu'on sait s'il y a des oiseaux, certaines familles, par exemple, qui sont plus affectées que d'autres, ou est-ce que c'est assez réparti parmi la faune du Québec?
Non, il y a vraiment des familles qui sont plus affectées que d'autres. Ça a été assez intéressant. Au début, ce qu'on a vu, c'est beaucoup les oiseaux migrateurs, c'est-à-dire les oiseaux aquatiques, surtout les anatidés, bernaches, les oies des neiges aussi, quelques espèces de canards. Et en fait, comme vous avez mentionné, il y a une question de contact avec les oiseaux. Pour qu'il y ait une transmission d'une maladie infectieuse comme ça, la notion de contact est très importante. Et ce qu'on a vu lors des migrations au printemps, c'est qu'il y a eu, comme vous le savez, il y a des rassemblements d'oiseaux quand même assez importants, que ce soit des bernaches ou des oies, où les oiseaux sont très, très collés les uns sur les autres. Et ça va favoriser la transmission. On a donc commencé par voir des mortalités sur les oiseaux qui se regrouperaient au niveau des aires de migration. Bernache du Canada voit des neiges beaucoup. Et par la suite, on s'est dit que ça va être un peu plus tranquille, comme lorsque les oiseaux vont migrer vers le nord, il va y avoir une dispersion, donc moins de contact et moins de transmission. Mais ce qu'on a vu aussi en parallèle à ça, c'est les charognards, c'est-à-dire des espèces d'oiseaux qui vont se nourrir sur les carcasses. Et eux, ils ont essentiellement des oiseaux de proie, mais aussi des corvidés, donc corbeaux, corneilles d'Amérique. Et puis, on a même vu des cas sur des jets bleus, par exemple. Dans les oiseaux de proie, on parle des rubans à tête rouge et pierres à tête blanche qui sont reconnus pour naturellement manger des carcasses. Mm-hmm. Et eux semblent très, très sensibles. On a eu quand même pas mal de mortalité au niveau des oiseaux de proie qui vont à l'occasion ou même régulièrement manger des carcasses d'oiseaux.
Oui, parce que j'allais dire justement, ben, donc, il y a probablement des familles, parce qu'a priori, je peux te dire, les rapaces se rassemblent généralement pas, là, à part peut-être la petite buse, mais donc qui était peut-être moins à risque à ce moment-là. Mais là, s'il y a cette problématique-là où ils se nourrissent de charognes, oui, ça peut effectivement causer problème.
Non, on n'a pas nécessairement d'évidence qu'il y a de transmission d'un oiseau de proie à un autre oiseau de proie, okay. Mais c'est vraiment par la consommation de carcasses de bernache et puis de doigts des neiges mortes d'une infection virale. L'autre groupe qu'on a vu à partir du printemps, en fait, c'est que, comme je disais, on avait comme l'impression, on se disait, bon là, les oiseaux vont disperser, l'épidémie va diminuer, et c'est ce qu'on a vu. On a beaucoup moins de cas maintenant sur les bernaches du Canada ou les oies. On a aussi une grosse diminution des cas sur les oiseaux de proie. Mais à partir du mois de mai, fin avril, début mai, on a commencé à avoir des mortalités chez les oiseaux marins coloniaux. Essentiellement, les adders à duvet, les fous de bassin. Mm-hmm. On a aussi vu quelques cas aussi sur guillemots marmettes, petits pingouins, qui vont fréquenter les mêmes sites de nidification que les adders à duvet. Mm-hmm. Et là, les mortalités ont été très, très importantes. Mortalité dans les colonies d'adders à duvet dans l'estuaire. Et puis, bon, je pense que tout le monde a entendu parler aussi des fous de bassin, que ce soit surtout aux îles de la Madeleine, mais aussi des mortalités dans la péninsule gaspésienne chez le fou de bassin. Et encore une fois, c'est que ces populations-là, lors de la reproduction, vont se réunir et ils vont avoir une grande proximité entre les oiseaux qui vont favoriser la transmission d'un oiseau à l'autre. Et ici, les oiseaux de proie sont pas tellement affectés parce qu'ils n'ont pas tendance à vraiment consommer des oiseaux marins. Ceci étant dit, on a eu quelques cas de pillards à tête blanche. Mm-hmm. On a commencé aussi à avoir des cas sur des goélands marins surtout, qui s'alimentent sur les colonies d'oiseaux marins. Ils ont aussi mangé des carcasses aussi. Mm-hmm. Et puis, il y a eu des mortalités quand même assez importantes aussi chez le goéland marin, mais aussi chez le goéland argenté. Donc, ça fait un peu de tour. On parle des oiseaux aquatiques, on parle que ce soit eau douce ou eau salée, mm-hmm. et les oiseaux charognards comme les oiseaux de proie ou les différentes espèces de goélands ou de corvidés. C'est pas mal essentiellement ça, les espèces qui sont affectées. On voit très, très peu de cas là, chez les passereaux, par exemple.
OK. Puis, d'où est-ce qu'est partie l'épidémie actuelle là, de H5N1? Est-ce qu'on a une idée d'où est-ce qu'elle arrive ou où est-ce qu'elle a commencé?
Oui, en fait, c'est un virus qui était présent en Europe depuis 2 ans environ. Et puis, les premiers cas ont été observés là, l'hiver dernier à Terre-Neuve, chez des goélands. Donc, on pense que c'est des oiseaux qui auraient migré, probablement à partir de l'Islande ou du Groenland, et qui seraient arrivés avec le virus à Terre-Neuve, et les premiers cas ont commencé là. Par la suite, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé, c'est que vraiment le virus a descendu dans les populations de goélands et d'oies jusque dans le sud des États-Unis. Et nous, au printemps, on s'attendait de voir ces oies blanches, là, surtout qui revenaient du sud des États-Unis dans les provinces canadiennes. Et puis, on s'attendait à ce que ça remonte avec l'immigration, et c'est ce qui s'est passé.
Vous saviez déjà un petit peu à l'avance, vous aviez déjà prévu que ça risquait d'arriver. Vous n'êtes pas surpris de ça?
On n'a pas été surpris, non. Mais c'est vraiment, ça a commencé par descendre le long de la côte atlantique pour après ça se distribuer à l'ensemble du continent. Le virus qui est en Europe depuis 2 ans, lui, est d'origine asiatique. C'est un virus qui a été observé pour la première fois en Chine, chez une oie. Et donc, c'est pas tout à fait clair comment le virus a passé de la Chine vers l'Europe. Est-ce que c'est via les oiseaux migrateurs ou est-ce que c'est via un commerce d'oiseaux de basse cour? Ça, on n'est pas capable de le déterminer. Mais pour ce qui est de l'introduction en Amérique du Nord à partir de l'Europe, ça semble vraiment être fait par les migrations, les couloirs migratoires d'oiseaux via le Groenland et puis l'Islande.
Maintenant, lorsqu'on regarde la progression en ce moment au Québec, bon, vous en avez vu d'autres, évidemment. Là, j'ai vu que vous aviez travaillé sur plusieurs cas, plusieurs épidémies, pas seulement chez les oiseaux, chez les mammifères, c'est un peu votre spécialité aussi. Est-ce que maintenant, on doit être inquiet de la situation au Québec ou est-ce que finalement, ce type d'épidémie-là, c'est quelque chose qui fait partie de l'ordre naturel, entre gros guillemets, puis donc c'est un peu normal que ça survienne?
Bien, en fait, c'est certain que lorsqu'on parle d'une maladie infectieuse, comme l'influenza aviaire, il va vraiment dépendre de ce qu'on appelle du taux de reproduction, c'est-à-dire du taux de transfert d'un oiseau infecté vers un oiseau infectable, si on veut. Donc, un oiseau qui est potentiellement, qui peut potentiellement être affecté. Il y a une espèce d'équilibre qui habituellement va s'établir, c'est qu'on arrive à un point où ce taux de transfert-là arrive en bas de 1. C'est-à-dire qu'un taux de transfert de 2, c'est un oiseau qui est infecté va en infecter 2. Un taux de transfert de 1, c'est ben, un oiseau infecté en infecte 1 seulement. Et là, ça fait en sorte que ça se maintient. S'il n'y a plus d'oiseaux, assez d'oiseaux infectables, si on veut, ben finalement, l'épidémie va finir par mourir d'elle-même. Et c'est ce qui risque d'arriver. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est sûr qu'avec les mortalités qu'on voit, il y a une diminution des densités d'oiseaux. Donc, une diminution des risques de transmission. Et il y a certains oiseaux aussi qui vont développer une immunité, une défense, et qui ne seront plus susceptibles de développer la maladie. Parce que ce n'est pas nécessairement tous les oiseaux qui vont en mourir. Habituellement, au niveau de la faune, lorsqu'on parle de maladies infectieuses, il y a un certain équilibre qui devrait se mettre en place. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas associé avec des diminutions de population importantes. On peut penser au niveau des fruits de bassin, surtout, là, et même des œdères à duvet, que les populations vont connaître une diminution. Mais si la population est assez résiliente, elle devrait revenir à son niveau pré-pandémie. Ceci étant dit, surtout pour les fruits de bassin qui ont vraiment une... les fruits de bassin vont avoir seulement qu'un poussin par année, là. Donc, il y a un taux de reproduction qui est quand même assez faible. À ce moment-là, ça va prendre plusieurs années avant de revenir aux populations de l'Ouest. Fait que, est-ce que c'est préoccupant? L'avantage, lorsqu'on deal, si on veut, avec des maladies qui sont dépendantes de la densité des oiseaux, c'est qu'habituellement, il y a comme un certain équilibre qui se met en place. Et c'est quand même assez rare qu'une maladie infectieuse comme ça va être responsable de la disparition complète d'une population. Ça peut arriver dans le cas de populations isolées, mais dans des cas de populations qui sont assez distribuées sur des grandes régions comme les œufs d'air ou les fous, les populations devraient être capables de s'en tirer.
Bon, donc au moins ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des facteurs humains qui ont pu faire empirer la situation ou est-ce que cette épidémie-là vous semble a priori strictement naturelle?
Bien, comme je mentionnais, la grosse question, c'est est-ce que le virus a envahi l'Europe? Parce que pour au niveau du passage de l'Europe à l'Amérique du Nord, on pense que ça s'est fait de façon naturelle, donc sans intervention humaine. La grosse question pour laquelle on n'a pas de réponse, c'est comment le virus s'est rendu jusqu'en Europe à partir de l'Asie. Et souvent, avec justement le commerce international et tout ça, les déplacements, l'activité même peut contribuer à introduire des nouveaux virus dans une population naïve. Et à ce moment-là, comme la population n'a pas évolué avec le virus, tous les animaux sont très, très sensibles, sont très susceptibles. Et c'est à ce moment-là où on va connaître des mortalités importantes, comme on a vu avec l'influenza aviaire. On a vécu la même chose dans les années du début des années 2000 avec le virus du Nil occidental. C'est un virus qui a été introduit en Amérique du Nord dans des moustiques, probablement suite à un déplacement en avion. Et à ce moment-là, ben, il est sûr qu'il y a eu des mortalités assez importantes dans les populations d'oiseaux en Amérique du Nord, associées avec une diminution de certaines populations. Mais le virus est maintenant ce qu'on appelle endémique, c'est-à-dire qu'il est présent. Dépendant des années, il va avoir plus ou moins de mortalité. Mais la plupart essentiellement toutes les populations sont capables, si on veut, de réagir. Puis il y a un équilibre qui s'est établi. Puis les populations sont revenues pas mal au niveau où elles étaient avant l'introduction du virus.
Qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on trouve un oiseau qui est malade, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire? Est-ce qu'il faut faire particulièrement attention si un oiseau est mort? Qu'est-ce que c'est la marche que vous recommandez, la marche à suivre?
Bien, de façon générale, c'est recommandé de ne pas toucher n'importe quel oiseau qui est malade ou qui est mort. Le virus influenza aviaire a un potentiel d'infecter l'homme. Cette souche-là particulière de H5N1 est hautement pathogène chez les oiseaux, mais elle est très peu pathogène chez l'homme. Je crois qu'il y a eu dans la littérature uniquement 2 cas d'infection humaine. Donc, les infections humaines sont possibles, mais très, très rares. C'est quand même une bonne précaution de ne pas toucher l'oiseau à main nue. Et si on le fait, ben, c'est important de bien nettoyer, de bien se laver les mains. On a un programme de surveillance. Donc, si vous trouvez un oiseau mort, ça peut être rapporté au ministère de l'Agriculture. Si vous allez sur le site web du MAPAC, vous allez trouver cette information-là quand même assez facilement.
Okay.
Et puis, à ce moment-là, dépendamment de l'espèce, dépendamment de la localisation, le ministère peut décider de faire une récolte de carcasse pour faire une analyse. Il faut comprendre que dans certains cas, on procède plus à des analyses. Si on sait, par exemple, si vous appelez pour un coup de bassin en Gaspésie,
oui.
Bien, à ce moment-là, on sait que le virus est présent en Gaspésie chez le coup de bassin, donc il n'y aura pas de récolte nécessairement. Mais si c'est une nouvelle région ou sur une nouvelle espèce, une espèce qui n'a pas été documentée encore, bien, à ce moment-là, il peut y avoir une récolte de la carcasse qui va être envoyée chez nous pour analyse.
Puis justement, toutes ces analyses-là que vous faites, parce que j'ai regardé votre travail, j'ai vu que vous étiez capable donc d'identifier si c'était bel et bien le virus qui était présent. Alors, ultimement, à quoi ça va servir tout ça? Donc, si ces recherches-là, à quoi elles peuvent mener? Qu'est-ce que c'est le but qui est recherché?
Bien, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'un peu de comprendre justement cette épidémie-là et puis d'essayer d'évaluer un peu l'impact de l'entrée du virus sur les populations. Comme je disais, si on se fie un peu à ce qu'on connaît sur les maladies virales, les maladies infectieuses, on pense que les populations vont être capables de rebondir. Ceci étant dit, c'est un nouveau virus pour nous. Et puis, il faut vraiment monitorer tout ça pour s'assurer que ça va être vraiment le cas. Et d'une certaine façon, si les gens veulent savoir ce qui se passe, si on a 5000 cormorans qui meurent aux Îles-de-la-Madeleine, je crois que c'est important d'essayer de déterminer la cause de mort. Dans ce cas-ci, c'est une maladie virale, c'est une maladie infectieuse, d'une certaine façon un peu naturelle, mais c'est sûr que s'il y avait une autre cause aussi, ça serait important de l'identifier.
Ah oui, si c'était de la contamination par un produit humain, ben là, à ce moment-là, c'est important d'être capable de dire, bon, mais finalement, c'est effectivement viral, donc il n'y a pas lieu de poser une action de façon immédiate. Là.
Oui, ben exactement. Puis quand on parle, par exemple, des éders à Dubaï présentement, s'il y a une mortalité importante associée avec une infection virale, ben c'est possible que le Service canadien de la faune va faire des modifications au niveau de la récolte, de la chasse. C'est bon, OK, on va peut-être donner une chance à la population de se rétablir et puis on va diminuer les quotas de chasse. Je donne un exemple comme ça. C'est le genre d'information qui peut être utilisée par les organismes réglementaires pour favoriser une population pour un peu compenser pour les mortalités qui ont été observées avec cette épidémie.
Bon, écoutez, M. Lair, c'était vraiment très, très intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin.
Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation.
Et voilà, c'est tout pour Tous aux oiseaux. Nous cherchons des lots à offrir pour notre encan en ligne pour la soirée bénéfice de Québec Oiseau. Alors, tous les ornithologues qui peuvent contribuer en offrant eux-mêmes des articles intéressants ou en contactant des entreprises de leur région pour qu'elles offrent des articles à la soirée bénéfice, on vous incite à le faire. Maintenant, sortez vos calendriers. C'est officiel, il va y avoir un congrès des ornithologues du Québec en octobre 2023 à Québec. Ça va être le 7, 8, 9 octobre avec une formule un peu similaire à ce que les gens ont vu à Rimouski en 2019. Donc, on va avoir le droit à des excursions dans la région de Québec les 7 et 9 octobre et des conférences le 8 octobre. Donc, c'est bien en 2023. Donc, commencez tout de suite à regarder pour de l'hébergement. Rallye des oiseaux de Noël. Alors, nous cherchons des organismes et bénévoles intéressés à organiser des événements du rallye des oiseaux de Noël dans leur région. Québec Oiseau fournit tout le soutien pour l'organisation de ces activités. Les personnes intéressées doivent communiquer avec René Roy-Baillargeon, dont l'adresse courriel se trouve sur le site Internet de Québec Oiseau. D'ici là, je vous souhaite de profiter des couleurs dans les arbres en même temps que des oiseaux et de faire le plein d'observations avant qu'on tombe dans les longs mois d'hiver. J'espère pouvoir vous reparler de toute façon avant ça. Merci et au revoir.